CIMI 2023, le rendez-vous de référence des acteurs de l'immobilier, en partenariat avec Axéo sur Radio Immo et Radio Territoria.
Eh bien, rebonjour à toutes et à tous. Il est 16h passé, vous êtes sur Radio Immo, sur Territoria. Merci d'être avec nous. On est sur la seconde journée du CIMI édition 2023, une édition marquée par beaucoup d'inquiétudes et de vigilance d'informations sur la fabrique du logement, fabrique de la ville en général. On va parler notamment d'énergie, de transformation environnementale et énergétique, notamment, qui est le vrai sujet du jour, et c'est même le chantier du siècle. Pour en parler avec nos amis d'Axéo, partis justement sur le bâtiment optimisé, notre émission que vous récupérez d'ailleurs tous les mois sur Radio Immo, accompagné de Mathieu Gilly avec nous sur le plateau. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Mathieu, directeur métier chez Axéo Énergie, en présence d'un grand professionnel de l'immobilier, un grand monsieur de l'immobilier.
Je te remercie Sylvain.
Il est le président de l'UNIS Île-de-France, mais c'est avant tout un entrepreneur dans l'immobilier, administrateur de biens, syndic de copropriété et transactionnaire, Olivier Sapard.
Bonjour. Bonjour, bonjour à tous.
Comment ça va Olivier ?
Bon, très bien. Je vois beaucoup de monde ici sur notre magnifique organisation du CIMI et je trouve ça très bien. En revanche, ils n'ont pas tous la tête dans le bon sens, mais bon, on va en parler.
C'est très clair. Au sommaire de cette émission, je vous propose qu'on en discute de trois sujets. On va parler de ce fameux décret tertiaire qui fait couler quand même beaucoup d'encre. Et d'ailleurs, je profite que vous soyez là, Mathieu, parce que je ne suis pas sûr que tous les professionnels ont bien compris les portées du décret tertiaire. Et du coup, on a besoin d'Axéo parce que c'est vous qui allez nous aider à y voir beaucoup plus clair dans son application. On va parler d'un sujet énergie, notamment sur les panneaux photovoltaïques versus panneaux solaires. On va en parler.
Oui, on va en parler.
Je crois qu'Olivier Sapard, il est dans les starting blocks sur la question. Et il y a un décret qui est paru là sur la copropriété.
Alors sur la copropriété, non, sur le décret tertiaire.
Sur le décret tertiaire.
Pour modifier ce qui avait été écrit, ouais. C'est paru dimanche matin, ouais. Tranquillement dimanche au journal matin. Officiel. Oui, non, mais on l'attendait depuis un an, faut être réaliste.
Dimanche matin, c'est... Non, mais j'adore.
C'est une réalité.
Je vois Olivier Sapard le dimanche matin, quand tout le monde détend, consulter le journal officiel.
Non, je ne le consulte pas, je reçois les infos automatiques.
Oui, doute.
Non, je ne vais pas tous les matins. Quand il y a quelque chose qui nous concerne, ça arrive direct, effectivement, en veille automatique.
Okay. Alors, ce décret va modifier pas mal de choses.
Il vient modifier un peu de choses, des choses importantes. D'abord, au niveau du syndicat des copropriétaires. Dans la partie du décret tertiaire, il nous avait rajouté en EFA, entité fonctionnelle assujettie, les syndicats des copropriétaires.
C'est quoi ça, identité fonctionnelle assujettie ?
Alors ça, c'est Mathieu qui va te répondre plus précisément.
Pour le public, voilà, les EFA.
Oui, donc Mathieu. Alors effectivement, les entités fonctionnelles assujetties, donc ce sont les occupants des locaux tertiaires, donc concernés par le décret tertiaire, qui doivent finalement chaque année donc déclarer leur consommation énergétique sur la plateforme Opéra. Et également qui doivent donc participer aux réductions de consommation énergétique qui sont imposées par cette réglementation. Donc à horizon 2030, par exemple, réaliser 40% d'économie d'énergie ou alors atteindre plutôt ce qu'on appelle une valeur absolue, donc qui dépend de la typologie d'activité. Là aussi, c'est un sujet qui fâche un petit peu puisque malheureusement, on est en attente également d'un arrêté modificatif qui va venir préciser un certain nombre de choses.
Et tout ça s'inscrit notamment dans la trajectoire bas carbone que s'est fixé le truc, voire même d'arriver à la neutralité carbone. Je doute qu'on y arrive, mais parce que déjà on arrive à moins de 40%, ce sera déjà bien.
Alors, ce sera déjà beau, oui.
Il ne faut pas oublier déjà que le décret tertiaire était déjà prévu pour septembre, non pas de cette année, mais de l'année précédente.
Tout à fait.
Et que quand on a indiqué que personne n'était prêt et que les explications n'avaient pas été données, ni comment on devait faire, ils avaient reporté du mois de septembre 2022 au mois de septembre 2023.
Exactement.
Déjà un premier point. Deuxième point, on avait dit, attention, vous êtes trompé dans la définition des EFA. Le syndicat des copropriétaires, ce n'est pas une EFA. C'est un syndicat. Il y a des copropriétaires, oui, qui sont là. Et parfois, ils sont occupants. Parfois, ce sont leurs locataires qui sont concernés. Et là, on a dit, attention, donc, vous ne trompez pas.
Donc, c'est intéressant ce que tu dis là. Un EFA, c'est donc, par nature, c'est un syndicat de copropriétaires.
Alors, non. Ça l'était, mais du coup...
Ça ne l'est plus.
Ça l'est plus.
Non, mais
c'était un peu une aberration, effectivement.
C'était une aberration. Et on a dit, mais vous êtes trompés. C'est pas ça.
Non.
Et derrière, il a fallu... au titre de l'UNIS, on est intervenu auprès du ministère, on a écrit plusieurs fois, soulevé le point aux différentes réunions de concertation sur les décrets et arrêtés pour ces parties-là, on s'est fait envoyer balader, il a fallu que l'on fasse une saisine au Conseil d'État Donc on a fait la procédure administrative.
Non.
Oui, directement pour pouvoir effectivement faire la modification. Suite à la saisine que l'on avait faite l'an dernier au mois de décembre.
Et vous avez obtenu gain de cause.
On a obtenu d'abord un premier rendez-vous début janvier avec le ministère en nous disant « écoutez, on n'a rien compris ». Enfin, c'est pas, ils n'ont pas dit ça. Ils ont dit « mais vous avez dû vous tromper parce que ce que vous nous demandez, c'est pas ça ». Donc il a fallu qu'on leur réexplique, on leur a dit expliquer les choses, on leur a dit qu'il y avait chez eux des spécialistes de la copropriété et qu'il fallait les consulter.
C'est surréaliste.
Et derrière, ils nous ont dit « on va faire les modifs ». Sauf qu'entre-temps, modif, rien. Et bien évidemment, il a fallu que le mois dernier, on redemande une date au Conseil d'État pour l'audience pour que d'un seul coup, on ait la publication du modificatif dimanche. Parce que l'audience au Conseil d'État, c'était la semaine prochaine.
Et du coup, ça va beaucoup mieux.
Et du coup, c'est déjà un peu plus clair. Alors, est-ce que ça va accélérer les choses ? Non. Est-ce que ça remet les choses un peu au carré ? Oui, c'est déjà un point positif. Mais c'est se battre pendant plus d'un an et demi, c'est saisir le Conseil d'État, c'est réexpliquer les choses à nos différents interlocuteurs dans les ministères. Le problème, c'est qu'ils ne se parlent pas entre eux. Et pourtant, ils sont au même étage.
On est d'accord.
L'application du décret tertiaire, c'est un chantier majeur.
C'est un énorme chantier. Effectivement, aujourd'hui, donc, par rapport à la réglementation, donc, énormément de personnes sont concernées par le décret tertiaire. Il y a une vraie bonne volonté de la part du gouvernement vis-à-vis quand même de ce décret, hein, puisque l'objectif est quand même de réduire donc, les consommations et les émissions de gaz à effet de serre. Malheureusement, la complexité quand même sur laquelle ils ont choisi d'aller rend les choses quand même très difficiles à réaliser et en fait, ça les freine même plutôt. Nous, aujourd'hui, on a beaucoup d'assujettis qui nous font confiance dans le cadre de ce décret tertiaire, qui malheureusement sont bloqués, puisque en fait ils aimeraient avancer sur le sujet, mais l'absence d'arrêté modificatif, donc là il y en a eu un et c'est très bien, ça va permettre de faire avancer certaines choses, mais on attend d'autres arrêtés modificatifs qui vont permettre de réellement concrétiser finalement la finalité de ce décret tertiaire. Et c'est ça qui rend les choses très difficiles, c'est que mine de rien les échéances elles avancent. Parfois on est devant des acteurs qui ont quand même des projets de travaux d'amélioration énergétique qui sont relativement conséquents. Et ben, finalement, ça va leur prendre plusieurs années pour mettre en œuvre la réalisation de ces travaux. Et ben, il est probable que finalement, ils ne puissent pas tenir les échéances du fait que les décrets n'aient pas été sortis suffisamment rapidement. Donc, c'est un gros chantier, c'est quelque chose de positif, mais malheureusement, aujourd'hui, ben, ça patine un petit peu.
Vous avez le même sentiment, Olivier?
Alors, ça patine pas chez tous. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte qu'il y a des solutions pour certains, on va dire, propriétaires qui ont beaucoup de biens et qui vont pouvoir effectivement faire des travaux sur un bien sans le faire sur les autres parce que c'est mutualisé. Et donc, j'ai certains propriétaires chez moi qui n'en ont qu'un, qui sont jaloux, pour pas dire autre chose, en disant « mais pourquoi lui, il ne traite que son immeuble untel et pas les trois autres immeubles ?» soit assureur institutionnel et autres, en disant ils vont faire ça d'abord, ensuite ils feront les autres dans 10 ans ou dans 20 ans. Eux, ils sont obligés de faire tout rapidement, pour 2030 pour une partie, et il me dit mais on n'a pas les moyens, on n'a pas les capacités, et surtout ils n'ont pas les financements. Et ça, c'est mon deuxième difficulté pour faire ces travaux, c'est qu'à un moment, on a des problèmes pour la rénovation énergétique des bâtiments de copropriété et des logements, mais on a aussi un problème de financement pour cette partie tertiaire. Pourquoi ? Parce que derrière, les banques, pour financer des travaux de ce type-là, quand vous êtes copropriétaire ou quand vous êtes propriétaire d'un petit bâtiment, ils vont vous dire « donnez-moi la rentabilité, est-ce que ça va améliorer les revenus que vous avez ou pas ?» La réponse va être « non ». Et ça, c'est une difficulté de banquier. Le banquier, il dit « j'investis 300 ». OK, on dit « en combien d'années vous allez rentabiliser les choses ?» Et l'autre, il va répondre « non, je ne rentabilise pas. Je me mets simplement en conformité avec les obligations du décret tertiaire ». Et là, vous avez un blanc avec le banquier.
C'est très clair. Alors justement, on va parler... ce sujet est un sujet... beaucoup plus profond qu'on imagine parce qu'il modifie aussi la façon de piloter le bâtiment pour les asset managers mais comme pour les property managers parce que tout ça entraîne des modifications de méthode. Il y a la question de l'énergie, qui est la question de l'énergie parce que finalement quand on parle d'énergie on parle de deux choses, on parle des coûts de l'énergie, donc maîtrise des coûts de l'énergie mais surtout aussi impact environnemental,
oui.
Autrement dit versus réduction de l'empreinte carbone
des émissions de gaz à effet de serre aussi, même chose
absolument. L'énergie seule. Alors, aujourd'hui, on a un dispositif, des dispositifs qui soutiennent le passage de la transition des énergies dites, entre guillemets, fossiles aux énergies renouvelables. Alors, moi, j'ai envie de vous poser, comme n'importe quelle personne qui écouterait une émission sur le bâtiment, qui concerne tout le monde, finalement, c'est Est-ce qu'on peut réellement switcher d'une énergie à une autre? Et est-ce qu'on doit forcément utiliser telle ou telle énergie? Ou n'y a-t-il pas, vous, de votre point de vue, Mathieu, finalement un phénomène opportuniste du style quand il faut méthaniser, on méthanise, quand il faut avoir de la géothermie, on prend de la géothermie, quand il faut faire de l'énergie solaire, on fait de l'énergie ou de l'énergie éolienne, parce qu'on a l'impression qu'il y a des choix, par exemple sur l'énergie, avec, je parle des pompes à chaleur notamment.
Oui, sur les fameuses pompes à chaleur.
Voilà, les fameuses pompes à chaleur, dont on ne cesse de parler aussi, et qu'on parle par exemple aussi d'un autre facteur, alors, parce que bon, l'Elysée, il paraît qu'ils se sont raccordés à de la géothermie.
Oui.
Voilà, ils en ont suffisamment parlé.
Mais peu profonde.
Oui.
Voilà, peu profonde.
Donc,
voilà.
Le résultat n'est pas le même.
Moi, j'aimerais qu'on nous explique concrètement, par le menu, comment ça se passe. C'est possible, ça?
Alors, aujourd'hui, il y a plusieurs leviers pour diminuer l'empreinte carbone, pour faire des réductions de consommation énergétique. Donc, effectivement, vous les avez évoqués. Après, ils ne sont pas tous adaptés. Concrètement, on ne peut pas mettre de la pompe à chaleur. Enfin, on prend l'exemple de Paris. Il y a quand même beaucoup d'endroits à Paris où c'est complètement impossible de mettre en place de la pompe à chaleur.
Quoi?
Tout simplement.
Il n'y a pas de place?
Il n'y a pas suffisamment de place. C'est la principale difficulté.
Parce que pour pouvoir mettre une... Alors justement, expliquez.
Il y a plusieurs types de pompes à chaleur.
Oui.
Je vais rappeler les choses.
Est-ce qu'on peut mettre une pompe à chaleur dans les bâtiments haussmanniens?
La réponse est la plupart du temps, tu dois mettre... Si c'est une pompe à chaleur RR avec un échangeur qui est comme un compresseur, tu vas devoir trouver un endroit où tu vas mettre ton compresseur qui va faire un bruit d'enfer et qui va tourner en permanence. Donc, et la clé, ton appareil de clim fait beaucoup moins de bruit que ta pompe à chaleur.
On est tous d'accord.
Et trois fois plus. Donc, tu as une réponse.
Donc pas de pompe à chaleur.
Donc, tu vas la mettre, effectivement, si tu as un grand terrain avec un truc, tu peux le mettre. Sur le toit, tu vas, c'est très bien, tous les voisins vont l'entendre. Les copropriétaires en dessous, surtout pas.
Non,
parce que, globalement, le son, il ne va pas descendre. Il va aller comme ça ou comme ça.
Oui,
et
oui.
Donc, globalement, c'est les immeubles d'à côté qui vont t'assigner. Donc, tu choisis. Mais à choisir aujourd'hui...
Donc, pas de pompe à chaleur dans Paris?
Alors, des pompes à chaleur dans certains immeubles, mais des vrais.
Des vrais.
Moi, j'ai des vrais pompes à chaleur qui sont avec des échanges d'eau dans le sol, qui sont pas loin de la Seine, pour lesquels on a des vrais pompes à chaleur.
C'est ça.
Mais j'en ai pas beaucoup. Je dois avoir 3 ou 4 immeubles comme ça.
C'est parce que la faisabilité technique est quand même très complexe, c'est-à-dire qu'on a besoin déjà de suffisamment de place. C'est plutôt adapté pour les copropriétés à chauffage collectif. Donc déjà pour toutes les copropriétés à chauffage individuel, malheureusement, ou les établissements, on va dire, à chauffage individuel, ce sera de toute façon...
Donc c'est une option qui n'est pas à mettre pour l'option individuelle?
Non, pas vraiment.
Par contre, pour l'habitat collectif, sur le chauffage collectif...
Ça peut être envisageable. Mais encore une fois, ça nécessite quand même une véritable étude de faisabilité.
Mais il faut un accès au réseau.
Et il faut un accès au réseau, voilà. Il faut
au réseau d'eau.
Au
réseau d'eau ou à la géothermie.
Ou à la géothermie, surtout. Voilà.
Et c'est ça la difficulté. Ce qu'ils ont mis...
C'est pas aussi simple que ça.
Non, c'est vraiment compliqué. La faisabilité technique de ces sujets-là, elle est difficile.
Quand vous écoutez les politiques, vous dites oui, alors...
On n'a qu'à le faire.
Oui.
Non, mais c'est le principe du politique.
Oui, c'est le principe.
Il veut faire avancer les choses, on le comprend.
Oui.
On l'entend. La seule chose, c'est qu'on ne peut pas mettre tout, n'importe où, n'importe comment. Et ça, quand on dit à nos copropriétaires, mais vous l'avez entendu à la radio ou à la télé, c'est très bien.
Mais c'est
dans
quoi...
votre immeuble, je ne sais pas le faire.
C'est quoi,
ou dans votre immeuble tertiaire, ok, oui, on peut le faire.
C'est quoi le
J'ai le morceau de terrain qui est au fond qui va nous permettre de mettre justement le morceau de pompe à chaleur.
Et c'est quoi le bon choix?
Bah, c'est quoi le bon choix?
Où il n'y a pas de bon choix, il y a des choix.
Alors, il y a des choix. Alors, moi, ce que je conseille, c'est quand même de faire un audit, notamment qui va permettre quand même d'étudier, on va dire, la liste exhaustive des améliorations énergétiques qui sont envisageables sur les bâtiments. On va dire que c'est la première étape qui permet de déjà vérifier la faisabilité technique, ce qui peut être d'ailleurs un levier dans le cadre du décret tertiaire, c'est-à-dire que lorsqu'on a le droit d'envisager un certain nombre d'améliorations, et du fait de leur impossibilité technique, on va avoir la possibilité demain de moduler l'objectif. Donc, c'est-à-dire, on va avoir la possibilité de l'alléger. Donc, il ne faut pas se priver de réaliser ces études-là, même si finalement il est avéré que ce n'est pas rentable ou que ce n'est pas faisable techniquement, il y a quand même intérêt à réaliser ces études-là. Et puis après, effectivement, il faut s'orienter vers les solutions les plus adaptées. Donc, la pompe à chaleur, on en a parlé, c'est compliqué. Aujourd'hui, il y a la possibilité quand même, alors sur Paris, principalement, de se raccorder sur les réseaux de chaleur ou sur les réseaux de rafraîchissement. Ça, c'est un beau levier dans le cadre du décret tertiaire, puisqu'il y a un véritable avantage aujourd'hui à se raccorder sur les réseaux de chaleur, les réseaux de rafraîchissement. Le photovoltaïque, qui est un sujet, voilà.
Ça, c'est un deuxième sujet.
qui est un sujet, alors qui est un levier. Alors, encore une fois, dans le centre de Paris, parler de photovoltaïque, ça ne sert
alors,
pas à grand
chose. Si, ouais. On est en train de faire une analyse avec la ville de Paris sur les toits de Paris disponibles pour mettre en place ces panneaux photovoltaïques. Donc, il y a une première réunion qui a eu lieu en concertation avec la mairie de Paris pour ces différents points. Et ils ont repéré sur un plan les toitures sur lesquelles on pourrait mettre en place ce type de panneaux photovoltaïques. On parle de panneaux photovoltaïques et non pas de panneaux solaires.
Oui.
Je rappelle que les panneaux solaires, nous, on en a dans quelques immeubles. Vous avez vu la température qu'on a eue cet été et l'été précédent. Le liquide qui est à l'intérieur a caramélisé. Je le dis, certains ne me croyaient pas. Je me suis dit, mais si, il a fait trop chaud et à l'intérieur, ça a caramélisé. Ça veut dire que le système est mort. L'assurance ne prend pas en charge, bien évidemment. Donc, conclusion, soit on remplace les panneaux solaires par d'autres panneaux solaires, mais ça, je ne suis pas d'accord.
Et ça, ce n'était pas prévisible.
Bah, qu'ils fassent, quand c'est plein soleil et que ça dépasse les 45 degrés, non.
Ils ne l'avaient pas anticipé.
Ils l'avaient pas anticipé.
Donc, effectivement, aujourd'hui, le solaire...
Non, mais ça paraît surréaliste.
Il y a des tests qui ont été faits, mais effectivement pas poussés suffisamment loin. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le solaire thermique, non. On parle plutôt effectivement de solaire photovoltaïque qui, lui, peut, je pense, être...
C'est quoi le solaire photovoltaïque, précisément?
Alors, aujourd'hui, le solaire photovoltaïque, donc, c'est la mise en place de panneaux solaires qui vont permettre, en fait, de produire de l'électricité.
Ils captent de la lumière?
Oui, effectivement. Hein, donc, c'est les photons qui sont récupérés par des cellules.
Mais s'il y a une intensité trop chaude, ça risque pas de désagréger...
Alors, pas pour la partie des panneaux solaires photovoltaïques, c'est l'avantage.
C'est précisément étudié pour ça.
Oui,
c'est étudié pour ça. Ça a été mis dans pas mal de pays. Aux Émirats arabes unis, il y en a beaucoup.
Voilà.
Au Maroc, il y en a beaucoup.
Il fait un peu chaud là-bas. Hein.
Et là-bas, ça pose aucun problème.
Donc, il n'y a pas de problème. Voilà.
Et ça tient à la température, justement.
Alors, ça tient.
Ça tient les plus de 50 degrés, donc il n'y a aucun problème.
Mais dites-moi, là-bas, ils doivent être complètement autonomes en énergie, du coup.
Alors, ce n'est pas aussi simple que ça, puisque, en fait, aujourd'hui, on a deux possibilités. Soit on va autoconsommer l'énergie donc, que l'on produit avec ces panneaux, soit on va revendre, finalement, cette électricité. Et c'est très difficile d'autoconsommer la totalité de ce qu'on produit. Donc, non, on ne peut pas rendre quand même 100% autonomes les bâtiments uniquement à l'aide du photovoltaïque. Enfin, pour moi, c'est totalement utopique, à ce jour, en tout cas. Demain, peut-être avec d'autres technologies. Alors, ou couplées avec d'autres technologies.
On est en train de réfléchir sur certains immeubles tertiaires où j'ai des flottes de véhicules électriques à recharger pour justement mettre en place des systèmes de batteries pour stocker l'énergie solaire pour qu'on puisse recharger en même temps sur 1, 2 ou 3 jours, pas plus, les véhicules qui se trouvent effectivement dans le parking en dessous.
Ah oui.
Oui.
Donc voilà, mais... Et je ne vais pas utiliser la totalité. Je vais éclairer effectivement les parties communes.
Oui, oui.
Voilà, mais
c'est déjà pas mal.
Mais c'est pas idiot parce qu'aujourd'hui on a ces demandes.
Alors la martingale, pour être très prosaïque pour ceux qui nous écoutent, c'est quoi? C'est un mix énergétique?
C'est un mix énergétique.
Oui, ce
obligatoire.
Sera un mix énergétique.
C'est quoi le bon mix énergétique pour vous, Olivier Sapeur?
Chauffage au gaz à condensation avec du gaz vert, parce que la méthanisation, elle marche.
Alors, vas-y.
Je vous rappelle que dans les Hauts-de-France,
traduisez gaz.
Vert.
Vert à condensation, expliquez.
La chaudière à gaz à condensation, c'est chaudières à gaz avec une condensation qui permet de récupérer la chaleur qui a été refaite pour la réinjecter dedans, pour justement utiliser de façon plus rentable l'énergie que l'on a mise.
C'est quoi le gaz vert?
Le gaz vert, c'est une partie de gaz qui a été fabriquée par de la méthanisation ou d'autres façons, on va dire artisanales.
La méthanisation, ce sont des gaz produits par les déchets organiques.
Par
les déchets organiques et la décomposition de la plupart du temps.
Déchets organiques?
Oui, déchets organiques, oui, généralement, oui,
alors,
c'est ça.
Souvent, ce sont, alors, dans les Hauts-de-France, puisque j'y étais la semaine dernière, c'est des betteraves et des pommes de terre.
Oui,
d'accord.
Je dis les choses parce qu'ils en ont mis en place.
C'est pas les animaux?
Non.
C'est pas le méthane dégagé par les animaux?
Non, c'est pas vos vaches dans les.
Donc, vaches qui pètent ne produisent pas d'énergie.
On entend beaucoup de choses, mais non.
J'aime bien, mais la question est intéressante. Mais je l'ai déjà eu. Hein.
Mais c'est pas moi qui l'ai dit, ce sont les auditeurs qui nous ont dit, mais finalement, on avait vu ça. Il y en a même un qui nous avait sorti. Alors, je sais pas si vous avez l'âge d'avoir connu ça. C'était le volet numéro 3, je crois, de Mad Max, où il y a un type qui produit de l'énergie avec des cochons.
Oui.
Et c'est du méthane. Et on dit que le méthane. Et d'ailleurs, le méthane produit finalement du CO2, hein, puisque
oui, tout à fait.
C'est un vrai sujet. Il y en a même qui disent qu'il faut réduire l'élevage, etc. Donc, non, c'est pas ça. Il y a deux compositions de déchets organiques. La loi qui va nous obliger à avoir un compost au bas de l'immeuble. Ça peut?
Pourquoi qu'il va nous
vous
obliger
avez ça
Il
vous
nous oblige.
Vous l'avez
sorti
ça
la loi.
Oui, elle est sortie.
Elle est sortie la loi.
Oui. C'est quand qu'on doit avoir un compost qui pue?
1er janvier.
1er janvier, oui, c'est ça.
1er janvier.
Voilà.
Alors, je rappelle que les
avenues
Mozart,
avenue Mozart, dans l'immeuble que vous gérez, il va y avoir un compost ou...
Non, je l'ai déjà dans certains immeubles du côté de la gare Montparnasse, où effectivement les bacs à compost ne sont pas les mêmes. Vous savez qu'aujourd'hui, les nouveaux bacs à compost, ils ont une double ouverture. C'est-à-dire une première ouverture, vous avez une partie plate sur laquelle vous allez mettre votre compost, vous refermez, ça redescend en bas et ça se referme ensuite pour que justement il y ait moins d'odeur dans ce type de bac à compost. Donc, premier point. Deuxième point, ensuite, il faut qu'il y ait un relève des déchets compostés, donc par des spécialistes qui récupèrent le compost. Et donc, il faut passer un accord avec soit la ville, soit avec certaines associations qui vont venir faire la relève de vos composts pour les utiliser différemment. Donc, bien évidemment, vous avez compris que nos charmants vendeurs de café qui nous disent que leurs capsules sont compostables, j'en suis très heureux, mais c'est juste de la pub pour ça. En revanche, effectivement, que l'on doit mettre dans certains immeubles un bac à compost parce qu'on a beaucoup de monde et que ça peut effectivement donner un intérêt, pourquoi pas ? Mais ce n'est pas dans tous les immeubles
qu'on va pouvoir le faire. Moi qui ai une maison individuelle,
oui.
Est-ce que je suis obligé d'avoir un compost ?
La réponse est pour l'instant non.
D'accord. C'est uniquement pour l'habitat collectif ?
Oui.
D'accord.
Même chose pour le social ?
C'est pas pour dire, hein, mais ça va être une sacrée galère à monter.
Oui, je pense aussi. On va vivre de grands moments encore.
C'est pas pour dire, sans ceux qui font des blagues. Dernière question, justement, sur décret tertiaire et mixité d'usage. Mm-hmm. Est-ce qu'on peut avoir, une question qui nous est posée, dans le même bâtiment, frappé du décret tertiaire et d'autres liés à
la rénovation énergétique du bâtiment.
Et du résidentiel mélangé.
Oui.
Oui, tout à fait. Oui. Aujourd'hui, donc.
Il n'y a rien qui prédomine.
Il y a les deux à faire.
Il y a les deux, en fait, à faire. On pourrait effectivement avoir les obligations liées au logement et à la
propriété. Oui, c'était le sens de la question.
Et avoir effectivement une partie sur l'assujettissement au décret tertiaire. On a souvent le cas. Hein. Vous prenez l'exemple de Tours. Souvent, donc, qui vont être assujettis, donc notamment au fameux projet de plan pluriannuel de travaux. Bon, c'est pas l'objet aujourd'hui, donc eux vont être soumis à cette loi. Et en pied d'immeuble, vous allez avoir un casino,
un supermarché ou un Monoprix. Hein.
Voilà, qui lui va avoir une surface supérieure à 1000 m² donc qui lui va se retrouver assujetti au décret tertiaire avec ses propres obligations de rénovation également. Donc effectivement, ça non plus, ça va pas être simple.
Le pire,
pourquoi faire ça ?
Voilà. Oui, d'accord. Alors il y a plus compliqué encore. Notre plus compliqué, c'est dans notre immeuble dans lequel, effectivement, chaque occupant commercial a 250 m². Lui, il va dire, je suis pas à 1000 mètres, je suis tranquille, sauf que j'en ai 5. Et que 5, ça fait plus de 1000 mètres au total. Et que donc les 5 sont concernés, mais sachant que chacun ne fait jamais les 1000 mètres. Mmh. Et ils vont vous répondre, mais non, ces 1000 mètres, je les ai pas, j'ai rien à faire. Et nous, en qualité de syndic, on est obligé de leur rappeler que le décret tertiaire s'applique, qu'ils ont au total plus de 1000 m² groupés ensemble et que donc il leur appartient de se soumettre, bien évidemment, en qualité d'EFA, au décret tertiaire.
Mais vous les aidez pour ça ?
Alors, on leur explique ce que c'est déjà, parce que pour certains, je leur parle chinois.
Ah ben, c'est la première étape, oui.
Et deuxième étape, je leur demande effectivement de se grouper ensemble pour prendre le même... bureau d'études qui va les mêmes prestataires. Mmh. Parce que s'ils ont chacun un prestataire différent, ils n'arriveront jamais au même résultat. Le but du jeu, c'est qu'ils prennent le même prestataire et qu'ils discutent un tarif où ils sont 5 ou 6 pour payer effectivement un peu moins cher parce qu'ils sont plus nombreux.
Tout à fait.
Vous voulez que je vous dise, j'ai déjà compris 2-3 trucs, c'est déjà pas mal. Parce que je peux vous dire que, heureusement que vous êtes là les professionnels, parce que sans vous, ça serait quand même la brasse coulée. Merci. Mathieu Gilly, je rappelle que vous êtes directeur métier chez Axéo Énergie. Et merci enfin au très pédagogue Olivier Safard, président de l'UNIS Île-de-France. Voilà, c'était le numéro de décembre pour le bâtiment optimisé en direct du CIMI. J'espère qu'on vous a appris et qu'on a au moins décrypté l'actualité. Je peux vous dire que la rénovation énergétique, en soi, c'est un vrai sujet et on ne va pas en cesser d'en parler. Surtout que le délai commence à se raccourcir. Merci à tous.
Merci en tout cas.
Est 6h25, on suit toujours nos programmes ici au CIMI.
CIMI 2023, le rendez-vous de référence des acteurs de l'immobilier. En partenariat avec Axéo sur Radio Immo et Radio Territoria.